Et ça, c'est devenu le chemin, la vérité et la vie. Les gens doivent commencer par l'ancienne alliance et ils doivent progresser, grandir pour aller vers la nouvelle alliance. Donc la mission de Jésus-Christ n'était pas de commencer une nouvelle religion, mais d'inaugurer une nouvelle conscience humaine qui pouvait aller au-delà des étiquettes religieuses et dire comme le fait Jésus, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Cette déclaration a deux aspects. C'est une liberté par rapport au passé et une liberté par rapport au futur. Quand une personne dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », ça veut dire que je ne suis le suiveur de quoi que ce soit du passé. Parce que si je suis le suiveur de quelqu'un du passé, je ne peux pas dire « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je devrais dire à ce moment-là « le passé est le chemin, la vérité, la vie ». Si je ne veux suivre personne du passé, je ne veux que personne me suive. Et je veux que chacun dise comme moi « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça, c'est vivre dans l'éternité. Maintenant, il n'y a pas de passé, pas de futur. C'est comme Jésus marchant sur l'eau. Quand quelqu'un marche sur l'eau, cette personne n'entre pas dans les traces de quiconque avant et ne laisse aucune trace pour les autres. Et les gens vivent une vie unique et de liberté. Et ça, c'est le but de toute notre évolution spirituelle. Donc Jésus n'a pas commencé une nouvelle religion, mais a transformé la religion existante qui peut faciliter cette évolution. Et parce que sa religion n'a pas accepté sa vision, il a formé un groupe avec ses plus proches disciples, pas comme une nouvelle religion avec une hiérarchie, mais comme un nid où les êtres humains étaient préparés pour pouvoir aller dans la liberté du royaume de Dieu. Malheureusement, on a créé une religion à son nom.
Mais alors du coup, pour vous, qui est Jésus ? Dieu en soi, une relation au Père, un chemin vers l'éternité ? Ou un découvreur de talent, ou autre chose.
On peut dire tout ça à la fois, parce que Jésus a dû évoluer dans sa relation à Dieu. On peut parler de quatre identités individuelles, Jésus comme individu, collective, Jésus en tant que juif, ensuite universel, comme fils de Dieu, ensuite divin. Et donc Jésus a commencé comme un individu, il est entré dans la conscience collective du judaïsme, il a fait une percée vers la conscience universelle et il est allé vers l'unité avec le divin. Il est tout ensemble. Et dans ce sens, son itinéraire devient un modèle pour tout le monde. On peut utiliser l'analogie d'un arbre, il a des feuilles, des branches, un tronc et des racines. Les feuilles représentent les individus, les branches représentent les idéaux collectifs et le tronc représente l'universel. Et il n'y en a qu'un. Et les racines représentent le divin. Et Jésus a commencé comme une feuille, est entré dans la branche du judaïsme, s'est déplacé vers le tronc et vers les racines. Et maintenant, il est l'arbre entier. Donc il n'y a qu'un arbre, qu'un chemin, qu'une vérité, qu'une vie. Et ça, c'est le chemin pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul chemin, mais cette évolution, chacun doit passer par là. Et il y a un itinéraire vers le haut et un vers le bas. Des feuilles, vous allez vers les racines et vous revenez vers les feuilles encore. Dans un sens, il est divin au niveau des racines et il est fils de Dieu au niveau du tronc. Et maintenant, il n'est plus lié par aucune religion parce qu'il a dépassé toutes les étiquettes religieuses. Comme individu, il doit manifester cette union avec Dieu dans sa vie d'individu. Cette façon de voir, on appelle ça le royaume de Dieu. C'est la plénitude de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la plénitude de l'amour du prochain. Parce qu'en lui, l'amour de Dieu est à 100%. Et l'amour du prochain est aussi à 100%. Aucune vérité ne peut aller au-delà de ça. Quand on étudie une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie, il faut se poser deux questions. Combien on peut avoir d'amour de Dieu dans cette religion et combien d'amour du prochain? À ce moment-là, on peut voir les différences. Et en Jésus-Christ, c'est plein.
Juste rebondir par rapport à cette analogie avec l'arbre. Du coup, qu'est-ce que représente la sève ?
C'est l'Esprit de Dieu qui est présent à tous les niveaux. Et on peut évoluer à partir de ça. C'est le principe qui assure le lien entre tout. On peut dire que c'est l'Esprit de Dieu.
Alors, j'ai une dernière question. Donc, vous avez grandi en Inde, dans cette double culture. Alors, à mon avis, vous n'êtes pas censé ignorer peut-être la grande culture spirituelle des hindous, avec les grands éveillés, les sages Ramakrishna, Maharishi, Nisargadatta, etc. Moi, j'avais une question. Quelle est pour vous la différence entre le soi hindou et Dieu en soi, selon la tradition des éveillés de l'Inde, justement? Et quand un sage hindou dit « je suis cela », est-ce que cela implique qu'il est encore identifié à la source? Ou est-ce qu'il y a encore un témoin, une distanciation?
Le grand achèvement des sages hindous, c'est la découverte de l'unité avec le divin. Dans les Upanishads, il y a quatre grandes affirmations. La première, c'est « je suis Brahman, je suis l'infini ». Le deuxième, c'est « tu es le Brahman, tu es l'infini. Le troisième, c'est Brahman, c'est une conscience non-duelle. Et la quatrième, c'est Atman et Brahman. On appelle ça les grandes phrases, les grandes déclarations. Okay. Si vous connaissez une des phrases, vous connaissez les autres. Pour comprendre ces déclarations, il faut comprendre les quatre niveaux du jeu. C'est fondamental dans l'enseignement des Upanishads. Vous avez le jeu individuel, le jeu collectif, le jeu universel et le jeu éternel. Quand quelqu'un dit « je suis Brahman, je suis Dieu », ce jeu appartient au quatrième niveau, pas aux trois niveaux inférieurs. Quelquefois, les gens font la confusion. Parce que les trois niveaux inférieurs ne peuvent pas dire « je suis Dieu ». Ils sont encore limités. Et ces sages comme Ramana Maharishi représentent ce stade d'unité. Pour eux, l'itinéraire finit avec cette découverte. Et je pense que c'est seulement un aspect de ce voyage. Il y a la nécessité de redescendre dans le temps et dans l'espace. Et de travailler pour la transformation du monde. Parce que le monde dans lequel on vit, avec tous ses aspects politiques et économiques, ne correspond pas à cette unité. Ils ont essayé de résoudre ce problème d'inégalité en utilisant la théorie du karma et de la réincarnation. Donc, j'ai pas de responsabilité parce que chacun est responsable de sa propre condition. Il n'y avait pas d'action de transformation sociale. Et Maharishi, pas de proposition pour une transformation sociale alors que c'était un grand sage. Et quand vous arrivez à Jésus-Christ, c'est semblable aux Upanishads. Je suis la lumière du monde. C'est comme je suis Brahman. Tu es la lumière du monde. Ça veut dire tu es Brahman. Le Père et moi sommes un. C'est Atman et Brahman. C'est tout à fait semblable, c'est exactement pareil que les Upanishads. Mais il a eu une action de transformation sociale. Il a vu que la société dans laquelle il vivait ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Donc il a proposé de transformer à tous les niveaux, religieux, politique, social, économique. Et il a dû affronter tout le monde. À cause de ça, il a dû mourir. Cette dimension est très importante. Il y a deux traditions spirituelles importantes. Une qu'on peut appeler les traditions de sagesse et les autres qui sont les traditions prophétiques. L'hindouisme, le jaïnisme, le tao, le bouddhisme. Les premières, c'était les traditions de sagesse et le judaïsme, le christianisme, l'islam et la foi bahaï, c'est les traditions prophétiques. Dans les traditions de sagesse, c'est un mouvement ascendant qui veut qu'on découvre l'unité, le divin. C'est plus individuel. Les individus doivent faire cette démarche. Et dans les traditions prophétiques, c'est un aspect plus communautaire. L'amour de Dieu doit se manifester dans l'amour du prochain. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu si vous n'avez pas l'amour des pauvres, l'amour des orphelins. Ça, c'est une action sociale qui transforme. Mais l'amour de Dieu n'était pas très élevé. Parce que c'était une relation entre créature et créateur. Et en Jésus-Christ, il y a eu un mariage entre les traditions de sagesse et les traditions prophétiques. Il a élevé la relation humano-divine de son état duel à un état non-duel. Dire « le Père et moi sommes un », c'est une expérience non-duelle. C'est comme dans les Upanishads. Et les sages indiens parlent de ça. Mais il a ramené cela à un niveau plus bas pour avoir une transformation sociale. Et donc la sagesse et les traditions prophétiques arrivent ensemble. Et il a dit, la reine de Saba est venue pour écouter la sagesse de Salomon. Mais il y a plus grand que Salomon ici. Les gens de Ninive ont écouté le prophète Jonas, mais il y a plus grand que le prophète Jonas ici. Salomon représente la vision duelle. Avec toute sa sagesse, il n'aurait jamais pu dire « Dieu et moi sommes un ». Et l'action du prophète Jonas était une action duelle. Mon prochain, il est extérieur à moi. Pour Jésus, c'est une action non duelle. Tout ce que vous faites à mon prochain, c'est à moi que vous le faites. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et quoi que vous fassiez aux autres, c'est à moi que vous le faites. Ici, la sagesse non duelle et l'action non duelle sont ensemble. Et donc, il y a un mariage entre la sagesse et les traditions prophétiques. Et je pense que notre évolution spirituelle va dans ce sens d'unité. Parce que le Jésus-Christ que la tradition présente, c'est pas la plénitude de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est l'unité. Et un autre important aspect de son message, c'est voir le prochain comme soi-même, comme divin. quelqu'un l'a interrogé à propos d'une personne qui était née aveugle, lui a demandé pourquoi cette personne est née aveugle. Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou ceux de ses ancêtres? Ça, c'est un peu comme la théorie du karma ou de la réincarnation. Il serait né aveugle parce qu'il a fait quelque chose de mal ou que ses ancêtres ont fait quelque chose de mal. Et ça veut dire je suis pas responsable. Je peux rentrer chez moi et dormir tranquille. Rien ne va me déranger. Ça, c'est semblable à la façon de penser indienne. Et Jésus a donné une réponse révolutionnaire. Et non, il n'est pas né aveugle à cause de ses péchés ou de ceux de ses ancêtres, mais pour manifester la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose de complètement différent.